Radio Spirale. En octobre 2011, Antoine Boisclair, Marc-André Brouillette, Denise Brassard, Guylaine Massoutre et Pierre Ouellette se retrouvaient à la librairie Pauline pour une table ronde ayant pour titre « Du poème comme réflexion sur le monde », une rencontre fascinante entre des praticiens et des théoriciens de la poésie sur la question des rapports entre l'écriture et le réel.
Alors, merci d'être là. Merci d'être là à cet événement dans le cadre des 40 ans du Norrois organisé grâce à la librairie Pauline qui nous a invités au printemps à penser à un événement ici. Et pour ce faire, nous avons, comme il y a beaucoup d'événements durant l'année qui étaient planifiés, on a trouvé que pour cette occasion, c'était l'idéal en fait de remettre de l'avant ou mettre de l'avant notre collection peut-être qu'on connaît moins, une collection dédiée à l'essai, la collection Chemin de traverse. Donc l'idée de la rencontre sera plus sous forme de conversation, une fois que les préalables auront été lancés, si je puis dire. Nous avons donc voulu créer cet événement pour mettre de l'avant la collection Chemin de traverse et qui se veut un lieu exploratoire de la pensée artistique. Donc l'idée est très large et peut contenir toutes sortes d'objets, que ce soit des études, des essais à proprement dit, ou de courts textes comme celui de Jacques Brault que nous venons de faire, même s'il n'appartient pas à la collection comme telle. Notre volonté, donc, était d'affirmer le lien qui unit poème et pensée, poésie et réflexion. Le pari étant que les poètes trouveraient ici un lieu qui prolonge leur rapport au monde en dehors du poème, en ouvrant une voie oblique permettant d'approfondir des idées, des intuitions susceptibles d'être reprises dans des poèmes à venir. Et les auteurs réunis ce soir ont en commun une pratique de l'essai, et quatre d'entre eux sont poètes au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'ils publient de la poésie. Et tous, par ailleurs, pratiquent l'essai avec un sens de la poésie certain, chacun à sa façon. Je vous les présente brièvement tout de suite. Alors, Antoine Boisclair, ici à ma droite, enseigne la littérature au Collège Brébeuf. Il a publié un essai chez Fides qui s'intitule « L'école du regard » autour des œuvres de Roland Giguère, Saint-Denis Guerneau et Robert Melançon, où il interroge le regard du peintre et du poète. Et plus récemment, il a publié un livre formidable qui s'intitule « Le bruissement des possibles », un premier livre de poèmes, mais on n'est pas face à quelqu'un qui commence en poésie. Un livre dans lequel la méditation est omniprésente. Denise Brassard, à ma gauche, est professeure à l'Université du Québec à Montréal. Elle enseigne la littérature et la création littéraire. Elle est poète, essayiste. Elle a publié, entre autres, un essai remarquable, « Le souffle du passage, poésie et essai » chez Fernand Ouellette, qui a reçu le prix Raymond Klibanski en 2007. Elle a dirigé plusieurs ouvrages collectifs, publié de nombreux articles, et elle a publié au Norrois également « La rive solitaire » en 2008. Son plus récent livre que nous avons publié au printemps, « L'épreuve de la distance » est un livre exigeant dont l'enjeu est de maintenir une dynamique de relance entre méditation et sensation, corps et pensée, dans lequel deux genres sont mis en regard et en tension, l'essai et le poème. Donc, c'était tout à fait approprié qu'elle soit avec nous ce soir. Et le caractère du livre rappelle en outre qu'on n'approche jamais si bien les êtres, les choses, les idées que depuis cette distance juste où l'on peut les dire sans les réduire. Marc-André Brouillette a publié, quant à lui, aux éditions du Norrois, les Chants marins, Carnet de brigands, Prix des jardins, Vent de vent, un livre d'artiste aujourd'hui, Les Lointains aux éditions Roselin. Ces textes ont été publiés à gauche et à droite, ici et à l'étranger, dans des collectifs, des anthologies, etc. Il a publié en 2005 un livre tout à fait intéressant qui s'articule autour des couleurs, si on peut dire, « Ma compagne », cette suite dédiée respectivement à une couleur, articulant ainsi couleurs, sensations et mots. L'auteur crée un univers où la sensibilité picturale côtoie celle du texte et de l'être. Il a obtenu pour ce livre le prix Louis Guillaume du poème en prose en Europe. Et il a publié également chez Nota Bene en 2010 une étude très très pointue, spatialité textuelle dans la poésie contemporaine. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Guylaine Massoutre, elle enseigne au niveau collégial et collabore régulièrement au quotidien Le Devoir, vous l'avez sans doute remarqué. Elle a publié, entre autres choses, L'atelier du danseur et Renaissance aux éditions Fides. Et en 2005, nous avons publié Escale océan, qui reprenait des textes qui étaient parus dans Le Devoir en 2002 sur des écrivains composant pour elle une géographie imaginaire, où elle saisit ce qui, dans l'œuvre, fait corps avec le paysage. Et déjà, on entend toutes sortes de programmes possibles pour la conversation de ce soir. Et finalement, Pierre Ouellette, poète, essayiste, romancier, professeur, prolifique, plus de 30 ouvrages publiés. Il a notamment reçu quelques récompenses, dont le prix du gouverneur général pour un essai tout à fait intéressant sur les arts visuels en général, donc qui s'intitule « À force de voir, histoire de regard » et le prix du Festival international de poésie de Trois-Rivières pour « Déposition », tous deux publiés au Norrois. Il a fait paraître par ailleurs 12 titres et il y en a un autre en préparation pour l'an prochain. Membre de la Société royale du Canada, il est titulaire de la chaire de recherche en esthétique et poétique. Au Norrois, parmi les essais, on peut signaler « Ombre qu'on vive »,« Le premier venu » et « La vie de mémoire ». Alors, comme je disais d'emblée, d'entrée de jeu, qu'est-ce que nous voulons cerner en posant notre préambule? Qu'une part du poème appartient à la pensée. À la pensée en image, non pas à la pensée conceptuelle, mais la pensée image, pour utiliser l'expression de Cesare Pavese. Roberto Juarez prétend quant à lui que la pensée même tient de la poésie, ce qui est une forme ni plus ni moins d'élégance. Quand on pense que poésie et pensée ne communiquent pas, Roberto Juarez, tout au contraire, toute son œuvre s'inscrit dans ce lien entre philosophie et poésie. Il a écrit un essai remarquable, notamment, qui s'intitule « Poésie et réalité », duquel je tire cette petite réflexion « La pensée même tient de la poésie ». Alors que Gottfried Benn, quant à lui, écrit dans la tâche du poète est sans doute de se penser contre le monde. « Tout contre », précise-t-il, pour souligner qu'il s'agit tout à la fois d'un affrontement et d'une caresse. Autant de possibilités que nous allons explorer dans les prochaines minutes. Donc, je commencerai par une question qui sera reprise au volet par qui voudra bien se lancer. Nous entendons témoigner du lien entre poème et pensée dans un mouvement de fond dans lequel le poète pense le monde en image, soulignant la part d'essai que contient un poème et le fondement éthique de toute démarche créatrice, comment la matière à poème devient-elle matière à pensée? Je vous lance la question. Oh, ben, écoutez. Oui, allez, il faut s'avancer quelqu'un.
En fait, c'est moi, sûr. Je renverserais la question. Pour parler de ma pratique, ce qui m'intéresse et ce qui me concerne de près, et ça correspond aussi à ce qui se passe dans mon atelier, à ma façon d'aborder l'écriture et de plus en plus à ma façon d'aborder la poésie qui ne m'apparaît plus comme un éclair du matin, mais plutôt comme un repos du soir. Je dirais la matière à penser devient-elle matière du poème? Parce que je conçois, en fait, la pratique de l'essai et de la poésie comme quelque chose qui relève d'une unité organique. Et l'essai, pour moi, lorsqu'il se pratique dans l'optique d'atteindre ce niveau d'intensité ou cette acuité de présence qu'est le poème, est une manière de tenir l'écrivain en voix. Et ce qui se produit au terme de cette mise en voie, de cet abandon à une forme d'écriture rituelle qui est l'essai, parce que quand on écrit de l'essai, on se consacre à un objet, on tente d'approcher un objet, et tout à coup, il se passe ce saut qualitatif, pour emprunter un terme kierkegaardien, qui fait que l'écrivain peut faire le saut dans le poème. Mais ce saut n'est rendu possible qu'à la faveur de cette intensité et de cette mise en voie, de cette vibration de son être qui a été rendue possible par la pratique de l'essai, qui est une écriture plus linéaire, plus continue. Et cette brisure sera rendue possible par le biais de cette intensification qui est évidemment la pensée elle-même, la pensée mise en acte, la pensée en parole.
Ben merci, Denise, de cette ouverture. Je pense que ça lance bien la chose.
Oui, Pierre? Mais je dirais un peu comme Denise, qu'en fait, il n'y a pas de dualité entre poésie et pensée, mais plutôt une sorte d'unité tendue, sans doute. Vous savez que la première grande œuvre philosophique était un poème, hein, le poème de Parménide, et par la suite, bien sûr, Empédocle ou Héraclite ont formulé leur pensée sur un mode éminemment poétique. Donc, la pensée est née dans et par le poème. De sorte qu'il ne s'agit pas de dépasser le poème dans la pensée, ou au contraire de dépasser la pensée dans le poème, mais de faire en sorte que le monde, soi-même, les autres, se pensent dans le langage, dans la parole, hein, qui est la matière même avec laquelle nous imaginons, nous argumentons, nous méditons. On ne médite pas avec des concepts, avec des notions abstraites, mais avec des mots chargé de figuralité, si on veut. Hein. La métaphore, par exemple, est un outil essentiel à la fois aux philosophes et aux poètes, précisément parce que les notions qu'elle porte sont soutenues par des images, par des sensations d'ordre visuel, d'ordre même auditif. Donc, c'est une unité. Hein. Il n'y a pas une pensée qui chercherait un mode d'expression qui serait la poésie, ni non plus un poème qui chercherait à se déployer au niveau de la pensée, mais unité des deux. Et il me semble qu'aujourd'hui, où la pensée se cherche, en fait, ce qu'on appelait autrefois l'idéologie, la théorie, en fait, tout ce qui s'est développé au niveau du concept, ou au niveau des idées, aujourd'hui, où tout ça se cherche et se perd d'une certaine manière, la façon dont on peut voir une sorte de, comment dire, de survie malgré tout, hein, malgré cet affaiblissement de la pensée, cette mort parfois qu'on dit, hein, des idéologies, de la philosophie, des utopies, la façon de sauver tout ça, c'est sans doute, hein, dans le ressort poétique qu'on peut la trouver, dans cette espèce de tremplin que nous donne l'image poétique, pour penser autrement, hein, qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant, et penser au-delà de la fin de la pensée. Cette pensée qui, effectivement, s'est un peu trop vite débarrassée du langage au profit du concept et qui, peu à peu, s'est épuisée. Hein. Je crois que Nietzsche a été peut-être le premier à sonner l'alarme, hein, d'une pensée qui devenait de plus en plus abstraite, hein, qui s'idéalisait et qui perdait tout contact avec le monde sensible. Et du coup, ça a eu des répercussions énormes, y compris chez les poètes comme tels. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous retrouvons un peu le moment originaire où poème et philosophie sont nés, c'est-à-dire ce moment où un Parménide, un Héraclite, un Empédocle pensaient dans la langue, hein, ou pratiquaient une parole qui était pensante.
Merci Pierre.
Oui, ben je pensais enchaîner.
Oui, vas-y.
Rapidement. J'irais dans le même sens que Pierre, à savoir qu'il n'y a pas de frontière claire et nette entre l'essai et le poème, bien entendu. Cela dit, il y a eu quand même des moments dans l'histoire où il y a eu des oppositions. Je pense notamment au moment de Platon, qui a voulu se distinguer du mythos, hein, qui est allé plus du côté du logos, du savoir, du concept, finalement. Mais effectivement, aujourd'hui, à une époque où ça serait un peu imprudent de porter le fardeau d'une idéologie dans un poème, je pense. Certaines formes de relativisme, mais on doit se méfier jusqu'à un certain point des idées. Cela dit, on ne peut pas écrire des poèmes sans des idées. C'est peut-être le paradoxe auquel on est un peu confronté. Je pense souvent à une anecdote très célèbre qui est celle qui a été rapportée par Valéry au sujet de Mallarmé et de Degas. Donc, vous connaissez peut-être l'anecdote, c'est le peintre Degas qui va voir Mallarmé, lui dit « Ah, j'ai plein d'idées pour écrire des poèmes ». Et Mallarmé aurait répondu, selon le témoignage de Valéry, que non, ce n'est pas avec des idées qu'on écrit, mais c'est avec des mots. Ça, c'est un problème peut-être qu'on a lorsqu'on écrit, en fait, auquel je suis souvent confronté. J'ai plein d'idées, mais lorsqu'on écrit, bien, c'est avec des mots qu'on écrit, bien entendu. Par contre, on peut pas écrire seulement avec des mots. Il faut tout un arrière-fond, il faut un bagage intellectuel pour écrire. Et tout se joue peut-être dans un moment très difficile à identifier, que j'ai jamais été capable d'identifier. Qui pourrait être un point où on fait une sorte de mise en parenthèse des idées, du bagage idéologique ou conceptuel qu'on a emmagasiné et dans lequel on s'abandonne au sensible. Pavès avait dans le métier de vivre, parce que j'ai cité Pavès tout à l'heure, avait une conception d'écriture que j'aimais bien, si je me rappelle bien. Il dit, on écrit les meilleurs poèmes lorsque, après une longue journée d'études, on se lève la tête, on quitte le livre et on regarde par la fenêtre. Autrement dit, ça serait le moment où, justement, on a en tête toutes les idées, tout le bagage conceptuel, mais où on renoue avec le sensible. Parce que si on se met à écrire des poèmes tout simplement avec des idées, bien, ça fait de la poésie, à mon avis, qui est peut-être personnellement un peu moins intéressante. Il y a des exemples à foison. J'ai pensé, sans vouloir déplaire à quiconque ici, j'espère que je ne vais pas offenser qui que ce soit, il y a un poète français, Michel Degui, qui a écrit des poèmes en pensée dernièrement. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Degui, qui est, à mon avis, un penseur extraordinaire, un des plus grands théoriciens de la poésie contemporaine. Malheureusement, je trouve que sa poésie ne tient pas la route en termes d'abandon sensible. Il a discuté peut-être à s'abandonner au quotidien, à la vie concrète, enfin, matérielle. Donc, c'est un équilibre difficile à atteindre. Je prétends pas le connaître, mais il me semble que c'est... La relation entre idée et poème ou entre pensée et poème se joue dans une frontière qu'il faut essayer de trouver, qui change, une frontière mouvante, peut-être.
Cette frontière mouvante, vous la voyez pour vous aussi, Marc-André, Guylaine?
Je sais pas, moi je partirais peut-être de choses très, très simples à la base, donc puisque la formulation du titre, je pense, nous amenait à voir qu'il y avait comme peut-être une opposition, et donc là on essaie de dire qu'il n'y a pas d'opposition, que les choses sont croisées, si je vous ai bien
oui compris. Ben, l'idée c'était pas pour moi de créer une
idée qui était soutenue là, en disant, mais la formulation du titre nous amenait à croire peut-être que la poésie pouvait s'opposer à la pensée ou à la réflexion, et que on tentait de les réunir
dans l'idée reçue.
Oui, je ne dis pas que c'est
oui, oui.
Qui était dit, mais bon. Si donc pense un peu à la base. Donc, la poésie, c'est un rapport au langage qui essaie de représenter le monde. On essaie de se représenter le monde par le biais d'une forme particulière du langage, de la parole. Donc, ce langage-là, évidemment, peut prendre toutes sortes de formes. Il n'est pas limité, mais disons qu'il y a un certain cadre à l'intérieur de ça qu'on pourrait déterminer, disons. Pour ce qui est de la pensée, on pourrait... peut-être dire que c'est une sorte de mise à distance de notre expérience ou de notre expérience du monde. Et plutôt que de créer comme deux entités qui pourraient s'opposer ou se rencontrer, tout ça, c'est un peu des rencontres par niveau ou par nuance, un peu, je trouve, qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'il y a le désir de se représenter le monde avec des mots, et il y a ensuite une façon de se mettre à distance du monde pour l'observer, pour le comprendre, pour le nommer, qui va ensuite se jouer avec ces deux éléments-là. Pour moi. Et donc, autant il peut y avoir une pensée scientifique, une pensée rationnelle, une pensée économique qui nous envahit en ce moment, plus proche du micro. Donc, il peut y avoir toutes sortes de types de pensées. Je vous dirais, bon, peut-être celle qui, moi, me touche, mais en même temps, qui est peut-être une pensée qui répond le plus immédiatement à toutes ces interrogations et ces questionnements-là qu'on peut avoir, serait la pensée sensible. Donc, ça rejoint un petit peu ce dont Antoine parlait. Cette pensée sensible, donc, a été beaucoup développée et réfléchie, par un philosophe qui s'appelle Merleau-Ponty, donc, qui est, pour moi, une source d'inspiration très forte, très puissante, puisqu'il a réussi à nommer des choses et à concevoir, justement, un rapport sensible, c'est-à-dire de parler de son expérience du monde, notamment par le biais de ses sens, les cinq sens dont notre corps est muni, si on peut dire. Et donc, par rapport à ça, ce serait peut-être, moi, une des voies qui m'intéresse le plus, puisque cette pensée sensible nous donne un niveau de nuance, là, si on peut dire, si je reprends un peu mon élément de départ, qui nous amène justement à aborder la question du monde, mais aussi de notre inscription dans ce monde-là, et donc à le réfléchir en le mettant à distance, mais en étant conscient qu'on en fait partie aussi. Donc, c'est un peu dans ce type d'intrication-là.
Et Guylaine Massoutre, vous définissez un petit peu, puisque vous êtes surtout attentive à l'écriture des autres, si on peut dire.
Oui, alors, peut-être pour réfléchir à cette question, moi, je me positionne un petit peu différemment, puisque je n'ai pas, comme mes collègues ici présents, la pratique de l'écriture poétique en publication, mais celle de l'essai. Donc, c'est un petit peu de ce côté-là que j'ai essayé de réfléchir comment l'image poétique, au fond, était une figure matricielle pour toute écriture d'essai. Alors, comment la figure matricielle de la poésie ou de l'image poétique était, au fond, à l'origine, enfin, de cette explosion aussi, dans cette autre forme de langage plus souvent plus linéaire ou plus ample, on pourrait peut-être dire plus bavard aussi, qu'est la forme de l'essai. Alors, pour moi, je partirai d'une phrase en fait, que je vais vous lire, qui est assez compliquée, mais qui s'explique après assez simplement, qui est la suivante. Une idée, ça a un corps. Je crois que ça rejoint ce que vous venez de dire les uns les autres. Une idée, ça a un corps, c'est le mot qui la représente. Et le mot a une propriété tout à fait curieuse, c'est qu'il fait la chose. Alors, cette phrase n'est pas de moi, elle est de Lacan, elle est dans le séminaire 25 de Lacan. Et quelle est donc cette chose qui fait l'idée qu'il y a un corps? Eh bien, je ferai appel peut-être à deux exemples, au fond, qui pourraient illustrer cette chose apparemment compliquée. La première est très simple et puis elle s'adresse à chacun d'entre vous. On a tous le souvenir du moment où on a appris à lire. On a tous appris à lire avec des images, avec des symboles, avec des signes qui médiatisent l'image et le son et la chose du monde. Et de cette expérience-là, je pense que, qui est donc générale, universelle, il reste chez l'écrivain une grande mémoire active de ce moment extrêmement émouvant, extrêmement plaisant, une sorte d'homéostase, de plaisir, hein, où l'esprit, les sons, la vue, enfin, l'intelligence du mot qui fait sens, tout se trouve réuni à cet instant présent. On découvre le monde, on le nomme, on le lit, on le voit. Donc la sensorialité est extrêmement active et l'esprit donc fait penser, le mot fait penser, la pensée en fait. Alors ça c'est une première, serait peut-être une expérience qui va se retrouver très fortement chez l'écrivain d'une manière évidemment de plus en plus présent dans ce corps qui écrit, ce corps à mi-chemin du langage, à mi-chemin du monde, qui est le corps littéraire. Alors, pour l'expliquer après, si vous me donnez encore une minute, je dirais d'une façon un peu plus savante, qu'on pourrait aller chercher un autre exemple de ce qui est le mot qui fait la chose et qui fait penser, la pensée. J'ai pensé justement à la parabole qui est cette forme qui est une histoire, donc quelque chose de linéaire, hein, qui n'est pas le poème, mais qui est cette histoire qui fait sens et qui est une matrice aussi d'images, hein, une matrice explosive, imagée, sensible, sensorielle, figurée, hein, qui a un sens. Qui donne la pensée, donc quelque chose qui est évidemment très proche de cette matrice poétique et qui s'en va dans un univers du discours qui n'est pas le poème mais qui est la pensée qui fait sens, alors, ou qui donne sens au monde. Alors si on regarde un peu ce que c'est qu'une parabole, alors je ne vais pas m'en aller très loin dans la littérature, je suis juste allée chercher du côté de l'étymologie et j'ai regardé de nouveau que la parabole s'est formée de deux mots. Il y a un préfixe hein, qui veut dire qui est para en grec, qui veut dire à côté. Et puis il y a bol qui est bolein, bolos, bolein, ça veut dire jeter. Ça veut dire jeter un filet. Et bolos, c'est le jet, et c'est aussi le filet. Et comme les Grecs sont extrêmement doués dans le langage, c'est aussi le résultat de la prise. Alors vous voyez, il y a le geste, il y a l'objet qui le fait, et il y a la chose elle-même. Alors vous me voyez venir, évidemment. La parabole, eh bien, depuis l'Antiquité, c'est quelque chose de très complexe, c'est à la fois quelque chose de très concret, hein, le mot qui fait la chose et qui ramène la chose du monde. Et c'est aussi la parabole, ce qui sert à comparer, hein, qui, avec un langage très concret, avec un geste, avec un corps, ramène finalement un sens. Alors ça, ce serait pour peut-être, dans un premier temps, rappeler comment cette matrice sensorielle, elle est extrêmement donnante, pas seulement dans le poème, mais elle est disséminée dans les univers littéraires et d'un point de vue de l'essai, voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps, quitte à ce qu'on y revient.
Merci Guylaine. Quelqu'un peut rajouter autour de...
Oui, peut-être je reviendrai sur quelque chose que vous avez dit qui est absolument intéressant. J'ai pas vraiment de réponse à apporter à cette question. Savoir que le mot est porteur d'une pensée, le mot pense. Et je me suis posé la question hier en réfléchissant à tout ça, puis je me demande si le mot unique, individuel, peut être porteur d'une pensée. J'en doute un peu, je sais pas. Il me semble qu'un mot devient pensée à partir du moment où il est agencé avec d'autres mots.
Ce serait plutôt de l'ordre de la syntaxe.
Oui, de la syntaxe et de la narrativité peut-être. Mm-hmm. J'ai noté une citation d'André Bello dans « Surprendre les voix ». Il parle de l'essayiste en disant que c'est l'artiste de la narrativité des idées. Donc finalement, si on prend en considération cet aspect narratif, un poème qui contient de l'essai serait un peu plus narratif. Et là, bon, évidemment, il y a des cas frontières, puis on peut pas classer les choses comme ça aussi simplement, ça serait trop commode, mais si on pense à toute une tradition romantique de poèmes narratifs, Wordsworth en Angleterre, Lamartine, Hugo, etc., effectivement, ils ont développé une poésie essayistique qui est très narrative. Peut-être qu'on s'écarte en tant que poète ou lorsqu'on fait de la poésie, on s'écarte de l'essai lorsque on privilégie moins la narration au profit peut-être de l'instantané, de l'image, de la métaphore peut-être, je ne sais pas. C'est une question que je me pose, j'ai pas de
l'instantané.
De l'instantané, du...
plus le propre du poème.
Ce qui serait anti-narratif peut-être, de manière absolue, ça pourrait être le poème automatique des surréalistes où il n'y a pas de narrativité, tout se brise à mesure que ça s'invente. Mm-hmm. Et là, on est dans l'absence de fil, de continuité. Et peut-être que les surréalistes ont fait une poésie qui n'était pas essayistique par excellence. C'est une hypothèse qui me vient à l'esprit.
Pourtant, les deux auteurs que tu citais tantôt, Mallarmé et Valéry, sont de grands penseurs et qui se méfiaient de la narration. Hein. Oui, Lamarckis sortit à 5 heures. Et on pourrait faire une liste beaucoup plus longue avec René Char et tant d'autres qui ont pensé dans la condensation plutôt que dans le déploiement narratif. Donc, je crois qu'on peut faire aussi.
Mais Mallarmé pense dans ses essais, mais est-ce que dans sa poésie...
Oh, je pense, le coup de dé est quand même une cosmogonie incroyable, hein, qui peut rappeler les grandes cosmogonies du passé, de l'Antiquité. Donc, je ne suis pas trop sûr. Évidemment, quand on dit penser, on se réfère à beaucoup de choses différentes. Ouais. Hein. Il y a la pensée argumentative, la pensée plus scientifique, hein, dont on peut vérifier les propos par l'observation. Il y a la pensée mystique, qui est déjà autre chose encore. Donc, il faut essayer de voir que, finalement, la pensée propre au poème traverse sans doute, peut-être que l'appellation « chemin de traverse » pour cette collection vient de là, traverse toutes ces formes du pensable ou de la pensée, mais ne s'arrête à aucune de ces formes-là. Hein. Pensée qui n'est ni argumentative, ni narrative, ni méditative, ni mystique, mais tout en même temps, d'une certaine manière, ou en feuilletée. Hein, pas tout en même temps au sens où on mélange tout, là, mais au sens où on essaie de ne pas s'arrêter à un mode hein, de connaissance, ou un mode de sagesse, ou un mode de réflexion, mais quand on les prend en écharpe, Et je pense que ça va au-delà d'une simple synthèse ou d'un simple parcours. Il faut aussi une transgression, c'est-à-dire pousser la pensée au-delà d'elle-même. Faire en sorte que la pensée ne reste pas uniquement méditative ou uniquement argumentative, ou, etc., etc. Et c'est pourquoi, moi, j'aime bien cette notion d'extatique hein, qu'on trouve chez Heidegger, notamment, et chez d'autres, comme chez Bataille. La pensée se fait extatique dans le poème. C'est-à-dire qu'elle ne tient pas en place. Hein. Extase n'est pas statique, n'est pas en stase, mais toujours en dehors, hein, et poussée au dehors, en dehors d'elle-même. Elle n'est plus ce qu'elle est. À partir du moment où elle devient poétique, la pensée n'est plus tout à fait de la pensée, d'une certaine façon, tout en restant de la pensée. Un peu comme Claudel qui disait « La poésie est écrite avec les mots de tous les jours, mais ce ne sont pas les mêmes », on peut dire que la poésie pense, bien sûr, avec les idées, les notions, les concepts de tous les jours, mais ce ne sont plus les mêmes. C'est comme si on poussait la notion au-delà de ce qu'on peut imaginer qu'elle est, hein, presque à l'absurde. C'est pour ça que dans la poésie qui pense, il y a beaucoup d'insensés aussi. On dit que c'est fait pour donner du sens, la poésie. Pas tout à fait. C'est aussi pour faire face à l'insensé, à ce qui pour nous, n'a plus vraiment de sens, n'a pas vraiment de sens. Même à l'insignifiance hein, aussi. Donc, le miroitement des mots propres au poème sont là aussi pour faire vibrer cette impossibilité qu'on a de donner un sens à tout. On ne peut pas donner un sens véritable à la mort, à l'origine, peut-être même à Dieu. C'est difficile, hein? On peut essayer de se figurer ces mystères-là, mais tout ce qui nous en reste, en fait, ce sont plutôt des sortes de réverbérations qu'on retrouve dans le poème. Et ce n'est pas la notion, ce n'est pas du concept, ce n'est pas de la pensée, c'est quelque chose qui va au-delà. Donc, il y a un côté transgressif dans la pensée poétique. Poétique, je dis ça comme ça parce que c'est le mot poïen qui veut dire faire, créer. Hein, la pensée, donc, qui se crée au fur et à mesure, même en se détruisant. Alors que la pensée proprement philosophique ou la pensée idéologique ou la pensée scientifique ne cherche pas à se recréer au fur et à mesure. Au contraire, elle cherche plutôt à cumuler le savoir. Elle ne s'auto-détruit pas pour se refaire chaque fois. La pensée du poème est métamorphique. Elle est en constante transformation.
Merci Pierre. Il y a tout de même, si on va du côté maintenant de l'essai et du poème, il y a quand même, l'essai, on pourrait penser qu'il se définit à partir d'objets qui lui viennent de l'extérieur, alors que le poème traduit ce que Marc-André appelait une espèce de poésie sensible qui est liée à une expérience du monde, mais cette fois-ci liée à nos affects, à notre vécu, ou d'autres aspects qui sont liés plus à la vie intime, disons. Alors que l'essai est plus inscrit, c'est des questions, hein, plus inscrit dans une référence, la référence serait extérieure, comme si on prenait l'objet de l'extérieur pour en faire un chemin qui, d'écriture qui est quand même, qui se joue différemment que le poème.
Au départ.
Oui.
Mais ce qui est en jeu...
Le micro.
Excuse.
Au départ, effectivement, c'est une tension vers un objet qui nous porte au-delà de nous-mêmes, qui nous pousse hors de nous-mêmes. Mais comme le dit Jean-Marcel, comme ce qui est en cause dans l'écriture essayistique, c'est un sujet lyrique. Ce qui se produit au terme de l'entreprise, c'est que l'objet disparaît puisqu'il n'y a pas de prétention à l'objectivité, pas de prétention à la scientificité, et ce qui se produit au bout du compte, c'est que le sujet se retrouve face à lui-même. Autant que, comme Pierre le remarquait, le poème nous questionne non seulement notre rapport au langage, mais notre rapport au sens, le poème pose la question « qu'est-ce qu'écrire ?» De la même façon, l'essai finit par poser la question, alors d'abord, qu'est-ce que c'est, hein, quel est cet objet vers lequel je tends, qui suis-je et comment m'approcher de cet objet? Mais au fond, en bout de ligne, la question qui se pose ultimement et qui est la tension même de l'écriture essayistique, c'est qu'est-ce que penser? C'est notre rapport comme sujet aux objets du monde qui nous place en position dans le monde, qui nous fait partie prenante du monde. Et ça pose la question du sens et la question de la nature même de la pensée, de la substance même de la pensée. Donc, il y a là une auto-réflexivité de l'essai, au même titre qu'il y a une auto-réflexivité du poème, je pense. Et je terminerai en ajoutant que peut-être chez des poètes comme Mallarmé, chez les poètes où la pensée qui est à l'œuvre dans les poèmes est peut-être davantage une question d'intensité ou de densité, d'extrême condensation, la pensée ou la narrativité qui sous-tend la pensée qui s'exprime dans l'essai, par exemple, va s'inscrire plus tôt dans les essais. Alors, on lit la poésie de Mallarmé à la lumière de ses essais, comme je lis la poésie de Pierre à la lumière de sa réflexion sur la poésie. Non pas que les poèmes seraient une illustration, une démonstration de ce que l'essayiste est fait de faire valoir par ailleurs, mais il y a là véritablement l'aboutissement d'une démarche, qui est évidemment une démarche de pensée incarné ça se cristallise, ça finit par produire cette forme extrêmement dense qu'est le poème, et c'est dans ce dialogue constant qui est le fait des écrivains qui pratiquent le genre essayistique et le poème que cet éclairage de la pensée, enfin que la pensée passe par le prisme du poème.
Et vous, Marc-André, qui avez travaillé sur la spatialité textuelle, j'imagine que ça vous interpelle d'une façon particulière, ce que Denise...
Oui, bien sûr, mais peut-être pour réenchaîner, je pourrais venir à la spatialité, mais c'est juste l'opposition entre l'objet intérieur, l'objet extérieur. Je sais pas, je serais un petit peu ambivalent par rapport à ça au sujet de l'écriture de l'essai. Si je pense à certains écrivains qui ont, entre autres, écrit l'essai, mais pas seulement, bon, des gens comme Pascal Quignard, bon, ou Jacques Brault, là, c'est deux écrivains totalement différents, mais qui sont, pour moi, d'une très grande richesse, là, comme lecteur. On a un peu l'impression, en les lisant, que ce qui les amène à écrire, j'en sais rien, en réalité, c'est peut-être moi qui projette ça, mais que c'est un peu une sorte de surcroît de leurs interrogations qui les amène à vouloir choisir une posture un peu différente que nous amène l'essai par rapport à l'écriture du poème dans le cas de Brault ou du roman chez Quignard. Mais parce que quand on lit les essais de Quignard, les petites réflexions, on sent bien que c'est son interrogation, bon, sur le monde, mais sur le langage énormément, et c'est des préoccupations d'écrivains aussi qui sont portées dans une autre dimension que le roman ou la poésie peut les amener. La même chose chez Brault, quand on lit ces petits essais, ces miniatures, c'est, bon, par exemple, bon, au fond du jardin que j'ai ici, je veux dire, c'est ces auteurs qui sont là dans son univers, les fantômes qui tournent autour de lui, et c'est comme, à un moment donné, faut qu'il en parle. Enfin, je sais pas, ça, c'est comme ça qu'on le ressent un peu, avec sa tonalité à lui, évidemment. Mais on sent que Emily Dickinson, là, c'est plus fort que lui. Il faut nommer quelque chose de ce rapport-là, à force de la lire, de la côtoyer, d'y réfléchir et d'être habité par elle. Il faut que ça sorte, mais peut-être autrement que ce que le poème lui donne comme...
Là, vous parlez de Dickinson. Comme... Dickinson est un cas où on pourrait dire que il y a une pensée qui est derrière tous les poèmes, qui la travaille, qui la traverse dans son rapport au monde, dans son rapport immédiat au monde.
Oui, je ne sais pas s'il y a des poètes où il n'y en a pas de pensée derrière. Enfin, je ne sais pas si elle est derrière ou devant, mais...
Non, mais il y a des poètes chez qui ça se manifeste de façon plus incarnée, plus enracinée, disons, que apparemment, tout le moins. Et Dickinson est peut-être un cas comme ça, mais enfin, je vois ça comme ça.
Enfin, oui.
Et dans Ma compagne, parce que je vois que... Est-ce que vous aviez un essai de Jacques Brault que vous vouliez
j'ai un petit extrait comme ça qui pourrait un peu illustrer...
Est-ce qu'on peut l'entendre?
Oui, je peux en lire un petit extrait, mais c'est juste par rapport à la question justement d'une pensée sensible, mais qui se formule dans un essai... qui en même temps rejoint totalement ses préoccupations, évidemment, d'écrivain, de poète. Donc, je vous lis un petit paragraphe comme ça, mais qui vous donne un peu une idée. Donc, Au fond du jardin, qui est publié aux éditions du Norrois. Si d'un enclos perceptif s'échappe en écriture le sans limite, c'est que le monde, certes, nous habille d'une étoffe vivante. C'est aussi que par un sixième sens, nous modulons la voix écrivante. Par elle, la pensée a chance de chanter, de nouer les idées imageantes en trilles qui débordent les limites de l'entendement. À cela répond la lecture rêveuse qui ralentit le flux langagier et même le met en retard. Alors la langue a tout son temps, toute la lenteur requise pour marier sens et saveur avec des mots de grande vocalité, de grande visualité, de grande tactilité, de grande gustativité, de grande olfactivité. De tout ce concert d'abstraction se dégage, comme un hérisson d'étamine, un petit peuple de sensations affinées qui font fête à l'intelligence du monde. Nos deux gaillards d'écrivains, parlait de deux personnes auparavant, nos deux gaillards écrivains auront compris cela sans y prendre garde. C'est ainsi qu'ils dépeignent par la bande, si on peut dire, une société hideuse pour le pire, frelatée pour le meilleur.
Oui, mais il me semble, c'est noté d'emblée, l'enclos et le sans limite. Il me semble que toutes le discours que vous tenez autour de ça s'inscrit là. C'est-à-dire comme si ce qu'on a déterminé comme genre, c'est-à-dire le poème et l'essai, et enclos l'un et l'autre, empêchait ce qu'on dit être tout le contraire, c'est-à-dire le sans limite qui peut autant aller du côté de l'essai que du côté du poétique. Ou de l'essai poétique, à la limite, ça se trouve dans la vie de mémoire. Par exemple, Pierre Ouellet, dans la vie de mémoire, vous écrivez un passage que je voulais citer tout à l'heure, mais je peux y revenir très certainement maintenant, qui dit ceci. « La poésie hésite entre deux quêtes, celle du plaisir, celle du vers dans l'oreille, rime et maître, rythme et scansion, l'éclat de l'image dans l'œil, sa force et sa couleur, ses multiples reflets, et celle de la pensée, une vérité à saisir, une sagesse à acquérir, une connaissance à produire, une expérience à transmettre. D'un côté, l'hédonisme ou le ludisme qui ancre la poésie dans le plaisir des mots, le jeu verbal, le miroitement des formes, leur pure sensualité. De l'autre, un gnosticisme, du grec gnosis qui veut dire connaissance. Donc, je pourrais continuer. Donc, il y a un acte de connaissance qui lie l'un et l'autre, quoi qu'il en soit.
J'aime bien voir, au contraire, quand le miroitement des mots, tout ça, qui fait effectivement plaisir, rencontre la gnose au sens fort, c'est-à-dire la connaissance par épreuve, par expérience. Donc, il faut qu'il y ait cette rencontre. On assiste aujourd'hui à une floraison de poésie ludique, où on s'amuse avec des mots comme ça. C'est gentil, ça fait du plaisir aux organes des sens aussi, d'entendre comme ça des belles sonorités. Mais c'est un peu gratuit. Et par ailleurs, vous avez aussi des pensées profondes qui s'expriment dans des poèmes comme ça, assez lourds, par une sagesse un peu volontaire, et qui créent aussi peut-être une certaine satisfaction, mais qui ne comblent pas.
Moi, à vous entendre, j'ai l'impression que l'une et l'autre seraient fausses.
Oui, c'est ça, voilà. Enfin, personnellement, c'est quelque chose d'autre que je cherche. Et bien, quand on parle de sensible, comme Marc-André le faisait très bien tantôt, en évoquant notamment Merleau-Ponty, on ne parle pas uniquement du monde, avec ses qualités visuelles, acoustiques, olfactives, etc., qui se présentent à nous. On parle aussi de notre sensibilité, c'est-à-dire ce lieu d'accueil que sont non seulement nos sens, mais aussi... Parce que les Grecs, par exemple, avaient un mot qui était aesthésis, qui a donné le mot esthétique, et qui renvoyait non seulement à la perception par les sens qu'ils appelaient externes, mais aussi par les sens internes, mémoire, imagination, intuition, etc. Donc, cette sensibilité qui est la nôtre, et qui permet au monde sensible d'agir sur qui nous sommes, de nous transformer, de nous métamorphoser, cette sensibilité, elle est aussi importante que la sensibilité du monde, c'est-à-dire son caractère visuel, acoustique, olfactif, etc. Donc c'est cette rencontre, vous voyez. Alors quand on dit il y a des objets intérieurs et des objets extérieurs, effectivement, tous les objets sont à la fois intérieurs et extérieurs. Parce que s'il n'y avait que des choses du monde au dehors, sans cette sensibilité en nous, pour en accueillir les propriétés, on ne les verrait pas, il faut qu'il y ait une sensibilité intérieure pour accueillir le monde. Donc c'est cette rencontre constante entre les deux qui moi, m'intéresse. Et c'est pourquoi, quand on dit que la poésie explore un peu la vie intérieure, les angoisses devant la mort, les inquiétudes face au destin, ou les interrogations face à l'origine, en fait, tout ça, que c'est vraiment une interrogation sur le moi profond, en fait, je me dis, on rejoint par là aussi bien le monde extérieur, parce que notre sensibilité, tout ce qui forme finalement notre conscience, par la mémoire, par l'imagination, est le résultat d'une expérience qu'on a faite du dehors, du grand dehors, de l'extériorité. L'apprentissage du langage dont parlait Guylaine tantôt en introduction m'apparaît essentiel effectivement pour comprendre ce phénomène-là, parce que quand on vit au monde, on n'est rien, absolument rien, on n'a rien dans la tête, rien dans la conscience, et c'est le langage, le monde, toutes les sensations qui nous viennent de l'extérieur qui vont meubler peu à peu cette conscience, qui vont lui permettre de se développer, et de manière illusoire, on croit que le langage est en nous, que tout ça c'est en nous, mais ça a été d'abord à l'extérieur, on l'a entendu et on l'a intériorisé, comme on a entendu les bruits des feuilles dans les arbres ou le chant des oiseaux qu'on a intériorisé. Après, on a l'illusion que c'est un monde intérieur. Oui, d'accord, mais ce monde intérieur est un écho, une réverbération du monde extérieur. Donc, il y a une unité entre le monde sensible et la sensibilité la plus profonde. Et je crois que le poème explore ça, cette espèce de... Hein, Merleau-Ponty parlait de chiasme, d'entrelà. C'est entrelacé constamment. Hein, vie intime et le grand dehors. C'est deux infinis. Hein, notre conscience n'a pas de limite pour nous. On n'a pas l'impression, hein, même si on a une mémoire qui oublie, une imagination qui est quand même bornée, on a l'impression que notre vie intérieure n'a pas de contour, hein, n'a pas, c'est le sans limite dont tu parlais tantôt, c'est pas un enclos. Et c'est la même sensation d'infini qu'on a par rapport à notre conscience que celle qu'on peut avoir par rapport à l'univers. Hein, c'est deux infinis qui se rencontrent. Et la poésie se tient toujours au bord de ces deux infinis.
Dire que ce qui fait le lien aussi entre la poésie et l'essai, ce qui les rend vraiment si proches, je pense que c'est le risque au fond. Et le mot risque fait le lien aussi entre ce dedans et ce dehors. Alors, je reprends un peu cette idée de la parabole, c'est bien le mouvement du corps, c'est bien le risque pris, c'est bien le jet du langage au dehors, hein, que l'on entendait aussi dans les petits textes que vous avez lus tous les deux tantôt, qu'il y a l'idée qui se forme, mais que très rapidement, le langage métaphorique, le langage qui ose, le langage qui fait jet, aussi, prend le risque de reformuler cette idée pour la dire peut-être d'une façon plus sensorielle, mais pas seulement. C'est un risque de la communication par de l'expression par ce langage du corps qui est fait des sensations, de la sensorialité et de cette matrice très explosive qui est le risque de parler.
Oui, le risque de parler, mais moi je n'ai plus de micro, mais je pense que c'est pour l'instant. Pour enchaîner tout simplement, peut-être avant la petite pause déjà, il y avait dans l'épreuve et la distance ce passage que je porte à votre attention de Denise. Si les poètes croient volontiers que le langage a autant l'homme que l'homme a le langage, et s'il est vrai que la poésie n'a d'autre but que le message qu'elle est à construire, si elle est geste d'ascension, acte de foi dans une forme de transcendance du langage, elle doit néanmoins demeurer dans le monde et accessible au monde. Dans son irréductible gratuité, la poésie sauve le monde de la triste banalité en le faisant renaître au sens renouvelé du langage, le langage détruit comme savoir et reconstruit comme pouvoir dire. Il me semble que là, ça communique un peu avec ce que Guylaine énonce, à savoir que malgré l'aspect peut-être même pointu ou grave, il y a cette communication, cette accessibilité au monde qui serait comme une responsabilité tout de même du poète.
Moi, j'aurais tendance à réagir à cette idée que le poème échappe à la triste réalité. Je me demande si le poème devrait pas justement dire cette triste réalité, c'est-à-dire que, tu parlais, Paul, au début de l'intervention, de cette idée que la poésie se pose contre le monde. C'est pas personnellement ma conception de la poésie, j'ai l'impression que la poésie est plus avec le monde. C'est-à-dire que je crois plus qu'on est dans une époque où on doit absolument... être subversif, transformer la réalité, ça a été le credo de Rimbaud, de toute une tradition surréaliste aussi, encore une fois. Et peut-être que le poème total, le poème absolu, le poème utopique que personne ne va écrire, ce serait le poème finalement qui dirait le monde tel quel, sans concept, sans rien, nu. C'est peut-être pour ça qu'on envie les peintres aussi, lorsqu'on écrit, les peintres sont ceux peut-être qui se permettent d'évoquer le monde sans grammaire, sans dictionnaire. C'est une phrase que Robert Marteau a écrite. J'envie les peintres, je ne l'ai pas par cœur parce qu'ils n'ont pas de dictionnaire, ils n'ont pas de... Roland Giguère aussi a repris cette idée. Tu parlais de l'enfant, Pierre, tout à l'heure. Je crois que l'enfant est peut-être souvent associé au poème, justement, parce que c'est celui qui est devant le monde sans concept, sans a priori. Peut-être que l'enfant est un poète, comme disait Saint-Denis Garneau et tant d'autres, parce qu'il est dans un rapport de transparence par rapport au monde. Il n'est pas contre, il est avec lui. Peut-être que ce serait ça le but ultime de la poésie. Je sais
c'est-à-dire
pas.
C'est-à-dire que Gottfried Benn ajoutait tout de même tout contre, c'est-à-dire qu'il se démarquait déjà de ce que vous nommez être contre et le transformer, oui, bien sûr. Et je comprends ce que vous dites parce que dans le bruissement des possibles, c'est un peu l'acte de réalité ou de méditation qui est, il y a un passage que j'aimerais bien vous entendre lire qui est le poème à la page 73. Si vous avez, et on pourra conclure simplement avant d'aller après la pause avec l'échange avec vous pour poursuivre parce que quand même il y a beaucoup de choses qui ont été mises d'emblée comme ça, donc on pourra se laisser en suspens comme ça et reprendre à partir de là pour avec vos questions peut-être.
Ah, effectivement, ce poème-là, c'est un heureux hasard. C'était tout programmé, hein, parce que là, ça
ouais,
parle de ça.
J'ai des idées comme ça qu'on travaille de temps d'accord. à autre.
Alors, le poème s'intitule « Intervalle ». Merci, Paul, d'avoir choisi ce poème. « Entre deux poèmes, les mots en apesanteur, durant quelques minutes sous la neige, la réalité se dispense de métaphores. L'univers s'affranchit du poids de la conscience dans un grand flottement sans but. Le chat redevient un chat, et le soir tombe pour personne par la fenêtre, où les arbres n'évoquent plus rien dans leur réalité figée. Ce bref répit, le temps de revenir à nos obligations, arroser les plantes, remplir un rapport d'impôt, survient quand le poème inachevé trouve son aboutissement dans un contentement précaire. Il nous allège d'une dette invisible et fait flotter les flocons sans charme, devant les blocs de maisons sans esthétique. Il rend chaque chose grise et sans intérêt, lorsque, de ce désintérêt même, surgit immanquablement l'ennui, et de cet ennui, le goût de dire, avec des mots, la profondeur de son désarroi.
Bien. Bien, merci. On peut prendre une courte pause, je ne sais pas comment vous faites. Voilà, peut-être pour poursuivre simplement cette conversation, peut-être l'ouvrir vers vous, peut-être avez-vous d'une intervention ou l'autre des questions qui ont surgi, que vous avez même notées peut-être ou mémorisées dans votre esprit. Est-ce que quelqu'un aurait une question à l'un ou l'autre ou à tous? C'est sûr que moi j'ai des choses que je peux continuer, il n'y a pas de problème. J'ai préparé quelques interventions pour nourrir la chose. Pas de questions pour l'instant. Vous me direz oui.
Oui, donc vous avez parlé de l'expérience du sensible pour aider l'écriture de fiction. Je me demandais comment vous utilisez le sensible dans l'écriture de théorie. En fait, comment la sensibilité peut être utilisée afin d'élaborer des concepts et les comprendre aussi par la suite pour ceux qui les lisent. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus.
Bon, voilà un programme assez large. Oui, Pierre?
Bon, rappeler un lieu commun, parce que tout le monde sait que la base du questionnement philosophique, c'est l'étonnement, hein, en grec, tomazein, c'est-à-dire ce qui vous frappe. Vous ne vous posez pas de questions si vous n'êtes pas frappé par quelque chose, hein, et donc sensibilisé à cette chose, et de manière parfois violente, hein, un peu comme Saint Paul qui tombe de cheval, hein, et qui, là, a cette illumination. Donc, il y a toujours quelque chose comme ça qui heurte, hein, vos habitudes, votre confort, votre bien-être, et qui vous amène à penser.
Ça peut être la finitude, hein, l'existence de la mort, ça peut être, je sais pas moi, l'origine, peu importe, mais il faut que ça vous frappe. Et quand on dit la mort, on dirait un concept, quelque chose d'abstrait. Non, hein, c'est quelque chose qui se déploie en vous sous la forme de l'anxiété, hein, de l'angoisse. Donc ça, c'est aussi du sensible, autant que le caillou, la fleur, le nuage. Donc, que ça vienne du dedans comme du dehors, peu importe. La question est d'abord quelque chose qui vous heurte. Quand je dis heurter ici, je n'entends pas nécessairement quelque chose d'éminemment violent. Ça peut être aussi une sorte d'effleurement, hein. Vous êtes effleuré par... Mais c'est quelque chose que vous sentez, en tout cas. Je ne connais pas de grand penseur qui n'ait pensé uniquement pour penser. C'est parce que il y avait quelque chose à régler avec le monde, avec lui-même, avec les autres, et qu'il avait soit effleuré, soit choqué.
Dans cette pensée sensible, c'est une question que je voulais formuler pour Marc-André, parce que dans ma compagne, ce sont les couleurs qui font qu'on avance vers le monde. Quelle était l'intuition de ce trajet des couleurs dans ma compagne? C'est pas fréquent tout de même que on s'enracine dans les couleurs, pour reprendre le relais tout simplement de la question de monsieur là, sur la dimension sensible.
Est-ce qu'on m'entend mieux?
Oui.
Bon. Quand on l'ouvre, c'est mieux. Dans le cas de ma compagne, peut-être des motivations au départ, pardon, c'était peut-être justement de... Bon, j'avais écrit d'autres textes, d'autres recueils qui portaient sur différents aspects du monde extérieur, du monde environnant. Et bon, les couleurs font comme partie, évidemment, de notre monde, de notre perception du monde. Et une des motivations pour moi d'explorer ce projet, c'était, peut-on nommer les couleurs autrement que par le nom qu'elles portent? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut définir le rouge autrement que dire, ben, vous savez, le rouge, c'est la couleur du sang, bon, etc. Est-ce qu'on peut définir ces couleurs-là, mais... à l'intérieur d'un langage donc qui soit plus métaphorique, qui travaille sur la densité, bon, et faire part en même temps de notre expérience du monde, de notre expérience de cette couleur, mais en essayant à la fois de nous concentrer justement sur une chose, alors que bon, évidemment, dès qu'on se concentre sur une chose, ça se répercute sur un ensemble de choses. Mais donc c'était un petit peu de se concentrer au départ sur cet élément-là, qui est le fruit d'une perception, puisque bon, vous savez. Quand on commence à parler des couleurs avec des amis, quelqu'un va dire gris alors que l'autre va dire non, c'est bleu, et puis l'autre va dire ben c'est plutôt vert, et puis bon, on peut passer une soirée comme ça à jamais s'entendre quelle est la couleur d'une chose. Donc, mon propos n'était pas de parler de cette polysémie-là forcément, mais d'essayer d'en faire une expérience personnelle et sensorielle, mais de voir comment il pouvait aussi ouvrir sur un certain rapport au monde. C'était ça.
Et dans la question, j'entends aussi quelque chose qui relancerait la pratique d'écriture, soit dans le poème, soit dans l'essai ou du côté de l'essai. Comment vous interprétez cette sensation-là c'est une question préalable que j'avais au départ. Je l'ai escamotée pour d'autres choses, mais il y a quand même un saut ou une impulsion qui est donnée dans ce cas-ci par la couleur, mais c'est le fruit aussi d'une méditation, voire d'une pensée de la couleur. Par exemple, dans le poème, j'ai un objet très précis que je voulais vous entendre lire peut-être, mais je le lirai. Parfois, je regarde le bleu pendant un long moment, surtout quand il est très haut, très loin. Je suis son mouvement et scrute sa profondeur. Quand je ferme les yeux, le bleu me traverse et demeure présent comme un rêve d'espoir qui se prolonge dans ma nuit. Donc, la couleur est un prétexte à méditer, à porter la couleur plus loin, comme vous le mentionnez tout à l'heure.
Ben, la couleur n'était pas un prétexte, c'est-à-dire qu'il y a une présence là, de la couleur. Enfin, ce que j'essayais de travailler, c'était donc la présence de ces couleurs. se manifeste de manière différente, variée, et donc comment inscrire cette expérience de la couleur dans une expérience et que cette expérience prenne forme dans le langage, par la parole, et non plus juste par mes sensations que je peux avoir du bleu en regardant le ciel. Bon, moi, Marc-André, qui regarde le ciel, bon. Mais ensuite, comment amener le langage à créer ou à nommer une expérience qui, comme disait Pierre, à la fois est faite aussi de non-sens et de sens, je veux dire, de ces choses qui nous, à la fois, rebutent et attirent, et donc qui font partie de l'expérience globale.
Merci. Mmh. Est-ce que ça répond un peu à une question?
Oui, une question qui est vraiment très ordinaire pour vous autres là, qui êtes poètes, mais que j'aimerais quand même bien comprendre. Vous savez, quand on parle justement de le rapport à la couleur, que la couleur puisse nous servir à traduire une expérience personnelle, une expérience avec notre rapport au monde. Et c'est peut-être bête comme question, mais ça me questionne toujours ce poème de Paul Éluard qui dit que la terre, elle est bleue comme une orange. J'aimerais être en mesure de saisir un peu son rapport au monde quand il dit ce poème et comment et son rapport à la couleur. Merci.
C'est pas du tout une question naïve, c'est une question très intéressante. Et je dirais, pour recouper ce que Pierre a dit tout à l'heure, lorsque Pierre disait que la poésie va au-delà du concept, dépasse la pensée, je pense qu'on a un bon exemple ici d'une image qui est impossible à conceptualiser. Pour prendre peut-être une image de René Char, je dirais que là, on n'a pas de preuves, on a juste des traces. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on ne peut pas traduire en langage conceptuel cette image qui défie l'entendement d'une certaine manière. Donc là, j'imagine qu'on a un bel exemple d'une manière de transcender la pensée conceptuelle par la métaphore, peut-être. La métaphore qui, étymologiquement, implique un déplacement du sens, un au-delà du sens, d'une certaine manière. C'est pas une métaphore, c'est une comparaison. Bleu comme une orange, mais c'est une image.
Et donc, ça appellerait... Oui, Pierre?
Juste un petit complément, parce qu'on peut aussi voir cette phrase, hein, mais il y en a bien d'autres qu'on pourrait évoquer de ce genre, hein, le titre d'André Breton, le revolver aux cheveux blancs, ou en fait des choses comme ça. Et je crois que dans la poésie, les mots ne se réfèrent pas à des choses du monde. Hein, on pense qu'il y a un monde avec des choses dedans et les mots les indiquent, comme ça, en les montrant du doigt. Jacques Garelli, grand philosophe, poète aussi, prétend que dans le poème, on mondifie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste se référer à une chose du monde, on crée le monde qui vient avec la chose. Éluard crée un monde où la terre est bleue comme une orange, point. Donc il ne s'agit pas simplement de mettre en tension deux couleurs contradictoires par rapport à cet objet qui serait la terre, c'est de créer un monde possible où cette chose, la terre bleue comme une orange, puisse exister, existe vraiment, comme, hein, mentalement, dans votre esprit. Donc ça modifie, ça amène tout un monde, hein, pas seulement une terre, un bleu et une orange, mais quelque chose où tout ça soit compossible, puisse coexister.
Et donc il y a quelque chose qui demeure de l'énigme, bien sûr. Quelqu'un veut enchaîner?
Je donnerais bien un exemple. C'est pas, le mot cinéma, si on réfléchit un peu, voilà, on serait dans un exercice d'écriture, et puis je veux utiliser ce terme, et puis réfléchir un peu à ce qu'il veut dire, et je regarde comment, d'où il vient, comment il a évolué, je le regarde pour ce qu'il est, ce terme, enfin j'essaie. Et puis je vois que le mot cinéma, là d'où il vient, de très loin encore une fois, de ses origines un peu sur lesquelles on peut rêver, hein, ce ne sont pas des véritables origines, mais enfin, ce que le mot charrie, c'est que cinéma, c'est d'abord le mouvement, c'est le mouvement. Alors, c'est le mouvement des images, vous commencez à rêver, c'est le mouvement. Et puis, c'est aussi, c'est le mouvement du corps, c'est la danse, cinéma. Et puis, je continue à regarder ce que ce mot veut dire, ce qu'il charrie d'histoire. Et puis, je vais voir que il va aussi signifier toutes les vicissitudes du sort, toute la bonne et la mauvaise fortune, hein, tout ce qui... Cinéma, c'est ce qui vous arrive dans une vie. Puis vous continuez à regarder ce terme, il veut dire aussi le cinéma, enfin dans son lointain passé, il veut dire aussi le trouble intérieur, le trouble de l'âme, l'agitation. Alors vous voyez où on est rendu? le monde des images, où il nous emmène. Juste un terme.
Mais si je vous écoute bien, il y a quand même une espèce de retour à l'originaire dont on parlait en ouverture, comme si on devait toujours revenir au plus lointain pour créer le plus immédiat.
Ou conservation d'un état du sensible.
Conservation d'un état du sensible.
En fait, poursuivre ce que Pierre disait à propos de Jacques Garrilli, qui nous explique que le poème mondifie, il ne fait pas que mondifier, il statue un état de la présence, un état du sensible, et un état du sensible justement qui résiste à toute tentative de conceptualisation ou de transmission par un mode de pensée rationnel ou par une idéologie. Ce que reproduit le vers d'Éluard, c'est une sensation, c'est une expérience sensible et qui est conservée comme expérience sensible et qui va, plutôt que de livrer un sens, une signification, va instituer une signifiance, un état du sens, un état du sensible qui peut être à la suite revécu par le lecteur ou l'auditeur du poème. Donc, on ne peut pas traduire, c'est ce qui nous amène à dire souvent qu'on ne peut pas traduire la poésie, ou que les gens qui ont réfléchi sur la traduction de la poésie vont plutôt privilégier une transposition dans la langue d'arrivée qui va permettre de reproduire un effet sensible plutôt que la littérature. L'idée, hein, on ne veut pas traduire les mots dans ce qui serait l'équivalent pour sa signification, mais plutôt comme expérience de lecture. Et donc voilà, ce serait plutôt que l'originaire en fait. C'est...
Merci Denise. Est-ce qu'il y a des oui?
Oui, ben on parle à propos du souvenir, on parle d'image mnésique, hein. On parle aussi d'images oniriques, à propos de ce qui se produit dans notre esprit quand on rêve, d'images fantasmatiques. Donc on est toujours dans la notion d'image qui renvoie bien sûr à l'activité de la vision, mais qui peut s'accompagner aussi de tout autre ordre de sensations, y compris acoustiques, tactiles, etc. Donc ce sont des résidus de notre activité perceptive qui viennent meubler notre esprit et qui... servent de support à l'activité mémorielle, l'activité onirique, l'activité fantasmatique, qui ne se font pas comme ça sans être soutenus par du sensible, mais un sensible intériorisé. Hein. Quand vous rêvez ou quand vous vous souvenez, c'est avec des qualités sensibles. Hein. Souvenez-vous chez Proust de la Madeleine, par exemple, hein, pour prendre un exemple tellement commun. Donc la saveur de la Madeleine, elle est purement mémorielle pour Marcel. Donc il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une intériorisation de l'activité perceptive et qui meuble notre vie intérieure, mais qui vient d'une certaine manière du dehors. Hein. On m'a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas quand même, pour le jeune enfant qui vient au monde, une sorte de prédisposition? Bien sûr, mais on sait très bien que l'enfant qui n'entre pas dans le langage, hein, les enfants autistiques par exemple, ou ceux qui souffrent d'aphasie, sont très vite coupés du monde. Ils n'ont plus accès au monde. Hein, ils ont leur propre monde, comme on dit, ça veut dire qu'ils n'ont pas véritablement d'expérience hein, du monde commun, je dirais, qui nous vient uniquement avec le langage, avec les images, qui permet de découper un peu la réalité, qui autrement n'apparaît que comme un vaste continuum de choses diverses, chaotiques. Mais l'organisation sensible de l'espace, hein, comme Piaget l'a montré à plusieurs reprises, est quelque chose qui se fait progressivement chez le jeune enfant par l'apprentissage à la fois du langage verbal et du langage visuel.
J'ai envie, Pierre, de vous faire lire un poème qui est dans des positions... Qui enchaîne peut-être avec quelque chose que j'aimerais poursuivre quant à la responsabilité du poète.
Voilà. Le réel, c'est un peu difficile à lire parce que c'est des poèmes très ponctués, vous allez voir. Donc, comme je n'ai pas eu le temps de le relire avant, je vais peut-être faire quelques petits accros. Voilà. Le réel, valve ouverte, laisse tout passer. Toi, le rêve.
La vie manifeste comme une main moite sur son visage, une gifle, une caresse, la marque d'une présence, le réel à flot, le gros poisson que l'on attrape au bout d'un hameçon, au bout d'un harpon, couché sur le dos, la gueule ouverte qui avale du ciel, entre les ouïes et le ciel noie, tue, enterre ce qui dépasse son propre mystère, sa vérité. On prend par le monde pour se rendre chez soi, la terre à sec de 2-3 pas, le plan incliné d'une vie à fond, où chacun va à reculons, puis à croupetons, au devant de quoi.
Au devant de quoi, ça serait précisément la poursuite de cet entretien, et puis moi, au devant de quoi, et dépositaire, témoin de quoi, qu'est-ce que vous entendez autour de ça? Il était nécessairement dépositaire, mais dépositaire, Pierre, le poème finit devant quoi? Devant quoi? Devant, peut-être vous avez une idée vous-même de ce devant quoi?
Je ne sais pas, c'est la prudence du monde, tout simplement. Mm-hmm. La prudence du monde.
Mm-hmm. Tout à fait, c'est le mot que j'avais en tête.
Dans le cas de déposition, parce qu'évidemment, il y a plusieurs sens à ce mot-là. On dépose quelque chose. Il y a la déposition des corps aussi, hein, au sens quasi funéraire du terme, hein, au moment de la mort d'un être cher. Donc, on dépose son corps. Il y a aussi cette idée plutôt judiciaire de la déposition qu'on fait, hein, devant un policier, un juge, c'est-à-dire les aveux qu'on doit, comme ça, qu'on nous arrache. Hein. Et dans ce cas-ci, le poème est vu précisément comme quelque chose qu'on doit avouer, l'aveu qui concerne quelque chose dont on se sent coupable, hein, dont on prend la responsabilité, dont on a la charge, mais sans savoir trop de quoi il s'agit. Hein, comme si un crime était perpétuellement commis par l'humanité, dont on était, chacun d'entre nous, responsable, et qu'on devait, hein, lors de cette déposition qui est l'écriture poétique, assumer, hein, la faute, mais sans trop savoir de quel crime il s'agit. Hein, le crime d'être au monde, le crime d'être né, j'en sais trop rien, le crime en quoi consiste toute vie humaine d'une certaine manière, le crime porté par l'histoire avec un grand H. Donc, le devant quoi, c'est ça. Devant quoi doit-on s'accuser? On pourrait dire devant qui aussi bien, hein, donc ce livre, qui est un livre assez tourmenté, pose toutes ces questions-là à propos des multiples sens du mot déposition.
Plus coquerant peut-être un peu, mais comme j'ai vu que vous aviez peut-être... est-ce que ça marche?
Oui, ça marche. J'ai vu que vous aviez peut-être préparé des extraits concernant notre rencontre de ce soir. Est-ce que y a des... J'ai lu un extrait de Pierre et d'Antoine. Est-ce que vous avez des... Je vois que vous avez choisi des choses quand même, mais est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez qu'on entende par rapport à ce que vous avez choisi comme extrait? L'un ou l'autre, Marc-André...
Moi, j'ai déjà lu.
Oui,
moi,
oui.
J'ai déjà lu, donc peut-être Guylaine ou Denise?
Ben oui, je veux dire. En guise de réponse à la question, oui. la question que tu viens de poser, de quoi est-on témoin, et effectivement la présence au monde, mais je dirais aussi, pour reprendre ce qu'a dit Guylaine tout à l'heure, qui me paraît extrêmement important, le risque. La prise de risque qui est la prise de parole, et non seulement le poète et le penseur sont... témoignent de la présence au monde, mais tiennent cette présence au monde et se tiennent à cette présence au monde. Et en réfléchissant aujourd'hui en vue de cette table ronde, je m'étais dit, bon, quelle serait la différence, mais le point de rencontre et de croisement entre la pensée essayistique et le poème. Et je me disais que l'essai... serait cette pensée en quête de sa propre différence. Ce serait une parole donnée, une pensée en quête de son écho. Donc, une parole donnée, tandis que le poème serait la manifestation de la présence entière, de la présence réalisée. À l'instant où, au hasard ou au terme de l'avancée de la pensée en acte, le sujet et l'objet se font face et se touchent, hein, sont l'un avec l'autre et peut-être se donnent la main. Ce serait donc une parole tenue. Alors, l'essai, cette parole donnée, hein, qui va vers l'autre, parce qu'on est, on est attaché à une signification. On part d'un objet sur lequel on cherche à s'entendre, à partager un regard, et le poème serait, lui, cette parole tenue, initiée depuis cette présence qui va de la périphérie vers le centre, ou de la plus grande distance vers la plus grande proximité. Et peut-être que le poème serait ce lieu où on recueille l'écho de la pensée, parce que dans ce mouvement de relance, il y a bien sûr l'allée de la pensée essayistique vers le poème, mais il y a ce retour aussi, parce que cette tension, elle ne peut pas être tenue indéfiniment. La pleine présence, quand on s'arrête à y penser, on ne peut la tenir que très peu longtemps. Hein. Ça devient invivable. On a besoin de cet instant de repos. Cet instant de repos, il est possible, en fait, cette intermittence de la présence est possible, rendue possible par la linéarité, la narrativité, ou cette forme de lyrisme un peu particulière qui est celle de la pensée qui s'écrit. Sous forme d'un essai, par exemple. Et je voudrais peut-être terminer, j'avais une citation, en fait. Ah, ouais, peut-être que ce serait plus facile. Le poème s'écrit dans la distance. Il est cette pensée qui prend le risque de la parole, tendue entre douleur et joie, gravité et légèreté. Distance à la faveur de laquelle la rumeur et le brouhaha se resserrent. Alors, de la multitude s'élève une seule voix, dont je m'éprends, qui me déprend de moi-même et, me jetant dans l'anonymat, me parle mieux que moi. C'est la voix du poème. Et si alors parler, ce n'est plus voir, comme le dit Blanchot, c'est peut-être entendre et s'entendre sur le sens des mots. Non pas tant leur signification que le sens de leur tension, leur avancée patiente dans la forêt d'écho de la pensée en acte vers la présence sans objet qu'est le poème.
Merci Denise. Vous vouliez prendre le relais sur une idée tout à l'heure?
Oui, mais en fait, je vais revenir sur la question de la responsabilité, parce que c'est, en écoutant Pierre, je pensais au poids qu'on a mis sur les épaules du poète tout au long du 20e siècle, responsabilité Maldestam, je pense qu'il disait que le poète est le gardien du langage, donc là, finalement le poète serait le responsable de la parole, etc. On a interdit au poète de s'exprimer plus ou moins par rapport à des tabous, notamment Auschwitz, etc. J'essaie de voir la poésie d'une manière un peu plus, avec un peu plus d'humilité, dans le sens où j'irais dans le sens de ce que disait Elias Canetti à propos de la phrase d'Adorno, pas le droit d'écrire la poésie après Auschwitz, disait, mais de quel droit le poète porterait la responsabilité du monde? De quel droit le poète se mêlerait de ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'on a écrasé un peu le poème à force de lui donner trop de responsabilité. J'irais plutôt dans le sens de ce que disait madame, savoir que la responsabilité du poète, ce serait peut-être de mettre en relief la présence. On se promène dans la rue, un soir d'été, on entend un merle, tout est calme, le soir tombe. Un garagiste qui fait ses travaux, il y a un chat qui passe, on entend le bruissement des arbres. Ce serait ça le poème, peut-être, de dire cette présence au monde de manière le plus authentique possible, je dirais. C'est déjà beaucoup, c'est énorme, c'est quelque chose d'impossible à traduire, hein. Évidemment, cette présence, mais peut-être que ça serait ça. Et ça ne veut pas dire que la poésie est désengagée, dépolitisée, parce que toute poésie est politique. Jacques Rancière l'a bien montré, on n'échappe pas à la politique. Il y a toujours une politique du poème qui s'incruste, qu'on le veuille ou non. Donc j'aurais tendance à déresponsabiliser le poème sans nécessairement en faire quelque chose de gratuit.
Canetti a cette belle image tout de même dans ce même texte où il nomme le poète comme témoin des métamorphoses, et c'est précisément ce que vous êtes en train de dire, non?
Témoin des métamorphoses, oui. Témoin de peut-être aussi de la complexité du réel. Étant un peu un disciple de Garneau, j'aurais tendance à dire que le rôle, Saint-Denis Garneau, que le rôle du poète consiste à agencer les choses, à les mettre en harmonie, à trouver un équilibre, peut-être surtout.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire juste comme ça, aussi témoin des possibles dans bien. Un monde qui nous apparaît un peu problématique?
C'est le titre de mon recueil.
Le bruissement des possibles. Le bruissement des possibles, voilà. Peut-être une dernière... je ne sais trop. Je pense que... À moins qu'il y ait d'autres questions, je pense que... Oui, oui. Elle...
L'intégrer dans la durée aussi. Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que
ouais.
l'idée...
Oui, c'est pas juste le présent.
Hein? Non, l'idée de témoin chez Kennedy, de toute façon, inscrit précisément cet enracinement dans le monde. C'est pas juste témoin qui voit passer, mais peut-être témoin au sens actif du terme. Mm-hmm. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres interventions que vous voulez faire?
Pour oui? réagir juste à,
oui,
brièvement. Au propos de,
allez-y.
D'Antoine, c'est que, bon, cette charge que prend le poème, ou, d'une certaine manière, le roman aussi bien, hein, ne veut pas dire nécessairement qu'elle l'écrase, hein, qu'elle l'étouffe et qu'elle fait comme ça souffrir le poète qui serait comme à l'agonie ou à son dernier souffle. Au contraire, c'est sans doute ce qui lui donne du souffle, hein, c'est qui le soulève. Hein. Quand on parle de quelqu'un qui est en colère contre la catastrophe, contre quelque chose de terrible qui est arrivé, on dit que ça le soulève. Hein. On parle d'un soulèvement. J'aime cette image parce que c'est je crois, le processus même qui est en jeu dans l'écriture poétique, hein, qui est de l'ordre du ressort. Je l'ai peut-être pas suffisamment fait sentir tantôt, mais en lisant ce bref poème, il y a du ressort dedans, hein, du spring rhythm, comme disait Hopkins. Donc il y a quelque chose qui, même si c'est en réaction à ce qui, en apparence, pèse et alourdit notre humanité, l'emporte. Hein. Alors, s'emporter, c'est ça aussi hein, dans la poésie. Et je crois que ce n'est pas incompatible avec le fait qu'on est plongé, immergé dans le monde comme présence. Hein. On ne se soulève pas nécessairement contre le monde lui-même, certainement pas contre le bruissement des arbres ou le chant des oiseaux, mais contre ce qui ne permet pas d'entendre ce bruissement-là et ce chant-là. On se soulève contre tout ce qui assourdit ce monde sensible hein, dont tu parles si bien dans ton livre. Et il me semble que, sinon, on est dans une espèce de grand consensus généralisé où on accepte d'une certaine manière hein, que tout soit mélangé, le bruit des oiseaux et celui des bombes. Et je crois que le poème doit dire, sur un plan plus éthique là, qu'esthétique, que ce n'est pas la même chose.
Oui, tout à fait. Et peut-être que la parole singulière du poète est aussi quelque chose qui fait, pas quelque chose, mais une voix qui fait apparaître du possible aussi. Pour reprendre mon introduction avec Roberto Juarez, la poésie moderne est une tentative risquée d'aller vers l'impossible qui est aussi parfois l'indicible, ce qu'on n'entend pas. Et je pense que la présence des poètes peut-être souligne cette dimension. Tous autant qu'ils sont, avec leur voix individuelle et personnelle. Et s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions, j'aurais envie... Oh, il y en a d'autres! Oui, il y a quelques
instants. Moi, j'avais envie de lire aussi un très bref passage, qui n'est pas de la poésie, mais qui, je crois, est tout à fait dans le même sens que ce qui vient
de... De toute façon, vous avez une façon d'entrer dans la lecture des autres qu'on pourrait voilà, qualifier alors, de poète.
Je terminais plutôt ma fonction de critique. Pour lire cette petite citation, qui est de Julien Gracq, hein, qui ne serait pas étonné de voir citer ici, bien qu'il ne soit pas poète, mais c'est tout comme. Oui, voilà. Alors, il disait ceci, j'avais noté, « Il y a dans l'histoire un sortilège embusqué, un élément qui, quoique mêlé à une masse considérable d'excipients inertes, a la vertu de griser. Il n'est pas question, bien sûr, de l'isoler de son support, mais les tableaux, les récits du passé en recèlent une teneur extrêmement inégale. » Et tout comme on concentre certains minerais, il n'est pas interdit à la fiction, dans la littérature, à la poésie, de parvenir à l'augmenter. Voilà, donc ça c'est une...
Merci. Marc-André, vous vouliez rajouter quelque chose? Non? Oui?
Non, mais en fait, je pourrais en profiter peut-être.
Oui,
pour moi, en fait, ce qu'on entend là, ce qui me semble important peut-être de retenir, c'est la question de travail d'écriture, que ce soit dans l'essai ou dans la poésie. C'est qu'on travaille quotidiennement un peu définir son attitude et définir son ancrage, son enracinement, comme tu disais par rapport à Canetti, si je me souviens bien. Donc, c'est un peu cette question-là. C'est pas tant, enfin pour moi, hein, je veux pas, c'est pas tellement d'aller vers des objets qui nous sont extérieurs, puis ensuite d'avoir comme à les assumer ou à les rejeter ou à les trimballer selon notre expérience, mais c'est plutôt de voir comment on va s'approcher, c'est plutôt dans ce mouvement d'apprivoisement qui est fait en même temps de toutes sortes de rejets, d'attirance, bon, de toutes sortes d'éléments, là, évidemment, mais comment on travaille à définir notre propre attitude, notre propre enracinement comme individu par rapport à ces éléments-là. Parce que quand tu parlais, Antoine, de la poésie n'a pas
à prendre les responsabilités.
À prendre des responsabilités, tout à fait, mais il ne faut pas le voir non plus comme des éléments extérieurs, donc il faudrait endosser. C'est plutôt de voir comment on travaille ça ou comment nous, on se met, on s'insère entre ces éléments-là et comment l'existence chemine à travers ça.
Bien évidemment, je sais bien. Je peux m'arrêter. Bien évidemment, cette discussion pourrait se poursuivre. On l'entend bien, et c'est ce qui est souhaitable. On pourrait peut-être dire, pour conclure, que de tout ce qu'on entend ce soir, maintenant, c'est le risque de rêver, le risque d'aller là derrière, et ça concerne peut-être tout autant les poètes que les lectrices et les lecteurs que vous êtes, au fond, le risque de rêver, de continuer à rêver le monde. Et bien, je vous remercie. Guylaine, Marc-André, Denise, Pierre et Antoine pour vos interventions. Je vous remercie, vous, dans la salle, d'avoir été si présent, si à l'écoute des mots de ce soir. Et cet entretien sera reproduit, a été capté par Radio Spirale et sera donc disponible d'ici quelques semaines avec des variations de son, sans doute, inhérents à ce genre de rencontre. Mais je vous remercie de votre présence.